Oui, bonjour. Merci et bravo pour votre exposé. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur l'arbitrage que doivent faire les pays pour, d'un côté, développer l'économie et tirer profit de la nature, et d'un autre côté, préserver la biodiversité. Et dans l'exemple que vous avez donné, on a vu d'un côté des exploitations des rizières, il me semble, et de l'autre côté, une campagne de l'UICN. Mais de l'UICN, bon, c'est complètement international. Donc, moi, parce que j'ai plutôt l'impression que l'arbitrage, il se fait pas tellement à l'échelle nationale, mais qu'il y a plutôt un conflit entre, d'un côté, à l'échelle nationale qui veut produire. Enfin, je pense notamment aux pays du Sud. Et bon, si on pense à la préservation de la forêt, c'est assez caractéristique. Et d'un autre côté, que la pression, elle vient plutôt de l'international pour préserver. Et on voit souvent les militants d'ONG qui arrivent en 4x4, qui vont expliquer au petit Ribéry comment il doit travailler, comment il doit vivre pour préserver la nature, quoi.
Alors, vous avez tout à fait raison, sauf que les États sont signataires de la convention, enfin, notamment le Sénégal est signataire de conventions internationales sur la biodiversité, après des engagements, est censé effectivement appliquer ces engagements et notamment protéger un certain nombre d'espaces et d'espèces. Et donc, cette contradiction, effectivement, elle se voit en termes d'aménagement du territoire, où on a, sur des espaces assez limités, effectivement des espaces qui sont protégés et à côté des espaces qui vont être dévolus plutôt pour de l'exploitation. Et que je crois que notre rôle justement, c'est d'essayer de montrer que de la biodiversité, on peut aussi tirer des services et qu'on peut tirer des bénéfices économiques. Et donc, effectivement, les travaux actuellement qu'on est conduit à montrer, c'est que ce n'est pas uniquement à des fins strictement écologiques, mais que de la biodiversité, on peut tirer des revenus, on peut trouver des bénéfices. Alors, pas simplement d'ailleurs des bénéfices économiques. Et je pense que c'est la logique actuelle, notamment des parcs nationaux de France, dans leur volonté, effectivement, que les collectivités territoriales signent leur charte d'adhésion, c'est pour qu'elles, effectivement, on se rende compte que la biodiversité, ça permet d'avoir de préserver, d'avoir une certaine qualité de l'air, qualité des eaux, qualité du paysage, etc., etc. Donc, c'est pas uniquement, il ne faut pas concevoir les valeurs de la biodiversité uniquement du point de vue économique, même si actuellement, il y a beaucoup de travaux qui essayent de mieux évaluer la valeur économique de la biodiversité avec des instruments assez intéressants de paiement pour services environnementaux, de banques de compensation, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est aussi de considérer les autres valeurs de la biodiversité et qu'on soit effectivement conscient de toutes les autres valeurs sociales, culturelles, etc., etc. Donc les États, effectivement, ils ont quand même ce débat. Parce qu'ils ont pris des engagements très forts, mais la France aussi a pris des engagements. Maintenant, elle se trouve coincée effectivement entre ces engagements, signataires d'un certain nombre de conventions et d'accords, et puis effectivement d'acteurs hein, qui ont besoin de vivre, hein, qui ont besoin, dont les métiers, ben, c'est la pêche, c'est l'agriculture. Et donc, on voit bien, encore une fois. Alors, là où vous avez raison, c'est, j'ai mis cette campagne UICN parce que les ONG sont extrêmement présents sur le terrain, alors d'autant plus présents dans ces pays-là qu'il y a effectivement une décentralisation, notamment bon, une volonté de politique de décentraliser et qui est très, très, très fréquemment finalement face à l'absence de l'État, qui a du mal aussi, qui n'a pas les moyens très souvent de ses politiques, qui a délégué en fait un certain nombre de ces procédures à des ONG, alors qu'ils sont très diverses. Hein. Ça peut être de grandes ONG. Alors, l'UICN n'est pas une ONG, mais enfin, bon, grandes organisations qui peuvent être effectivement internationales. Mais aussi, il y a une floraison d'ONG locales parce que ben, la conservation de la biodiversité est devenue une pompe à fric remarquable. Et donc, ce qui est absolument fascinant sur le terrain, c'est de voir à quel point, sur le même territoire, il y a une compétition entre ONG. Je vous ai donné l'exemple de Madagascar. Il y a même un partage entre les ONG allemandes, les ONG américaines, les ONG françaises, qui n'ont pas tout à fait les mêmes politiques, effectivement. Est-ce qu'on va faire de la cogestion? Est-ce qu'on va faire davantage de la sanctuarisation? Et ça, c'est vraiment absolument très, très important. Et c'est les ONG, encore une fois, qui jouent un rôle très important notamment dans ces grandes conventions internationales, ils sont présents, c'est eux qui préparent les dossiers, ils sont souvent bien mieux préparés que les gouvernements eux-mêmes, et donc du coup, effectivement, ils peuvent faire passer des décisions et des politiques très importantes. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu compliqué de rapport de force aussi entre différents acteurs, et que ces ONG, pour reprendre une expression qu'on trouve aussi dans le monde du développement, ce sont des courtiers de l'environnement. Hein. D'abord, il faut qu'ils justifient la reproduction de leur système. Hein. Je suis un peu méchante, peut-être.
Bonsoir, merci. Bonsoir. Pour votre exposé. Je vais me placer en tant que consommateur, alors, puisque vous avez parlé de consommateur. Vous avez souligné le fait que quand même assez, on a un rôle important à jouer, ce qui est très vrai, mais ce qui est aussi très difficile actuellement. Moi, personnellement, j'essaye de faire toujours attention à ce que j'achète, mais est-ce que dans ce que vous montrez comme exemple, notre rôle actuel, il n'est pas justement plutôt de favoriser la protection de nos propres ressources déjà, et notre propre biodiversité locale? J'entends par exemple l'agriculture locale, on voit que ça commence à revenir un peu à cette réflexion des circuits courts, l'agriculture locale. Parce que bon, on essaie de toujours faire attention à ce qu'on mange. Je prends un exemple tout bête. On va dans les magasins bio et puis on trouve des produits toujours originaux, c'est super et tout ça. Puis du jour au lendemain, on nous dit attention, il ne faut plus acheter ça. Je ne sais pas si vous connaissez les lentilles corail. Voilà, nous, on avait l'habitude d'en acheter. Puis après, on nous dit oh, non, il ne faut plus en acheter parce que si vous achetez ça, vous incitez une politique qui. Alors, je ne sais plus où elles sont produites, ces lentilles, mais bon. Donc, donc on a un rôle aussi dans l'investissement de ces produits qui favorise une culture particulière et qui défavorise une certaine paysannerie. Enfin bon, et tout ça, on n'en a pas du tout conscience parce qu'on n'a pas aucune idée du circuit, comme vous avez dit, du produit. Et on n'a pas du tout d'idée de comment a été réfléchie la production, pour qui, pourquoi, comme vous expliquez. Et localement, est-ce que justement, ce n'est pas plus simple de réfléchir à ce type de fonctionnement si déjà on réfléchit avec le paysan de la région et où là, on peut avoir une idée beaucoup plus précise. Alors, c'est super de favoriser et de protéger des ressources qui sont, selon ce que vous montriez, les plus importantes plutôt dans les zones intertropicales, mais est-ce qu'à notre échelle, ce n'est pas un peu complexe et est-ce que c'est la meilleure manière de faire, quoi, voilà.
Je vous remercie de cette question. Je crois que c'est très important. Effectivement, on voit très nettement qu'actuellement, il y a un retour, encore une fois, beaucoup dans les discours, un retour au terroir, un retour au local. On dit qu'il faut manger, comme vous dites. C'est ce qu'on appelle le locali. Il y a toute des associations localivores, vous savez. Donc, il faut manger des produits de saison. Il faut manger des produits, effectivement, qui viennent de la proximité immédiate, qui essaient, effectivement, de remettre à l'honneur les circuits courts et de privilégier effectivement pour éviter aussi l'empreinte écologique, etc. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, est-ce que c'est ce retour, est-ce que c'est vraiment un outil de développement durable ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de repli identitaire? Et je vous suis tout à fait. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter du fait que chacun va vivre sur son petit espace. Alors, je dirais qu'on n'en est quand même pas là. Hein. Aller dans les rayons de supermarché, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Je pense qu'il faut changer les mentalités. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer du jour au lendemain à ne consommer effectivement que, je ne sais pas, en hiver, bon, vous êtes privilégié, peut-être dans cette région, vous avez, voilà, c'est ce que j'allais dire, des choux, des navets, et puis effectivement, c'est en été qu'on aura les légumes et les fruits, d'abord du point de vue équilibre alimentaire, donc l'équilibre aussi de notre propre biodiversité, ce n'est pas très bon, hein, puisque vous savez, chaque être humain doit aussi être une biodiversité à soi tout seul, et donc il faut qu'on diversifie notre alimentation. Donc, bon, encore une fois, on ne va pas passer du jour au lendemain, voilà, donc, mais, et que dans les rayons des supermarchés, c'est vrai que je trouve ça assez fascinant de voir à quel point ces rayons où il y a plein de produits, alors produits bio, puis produits de commerce équitable, où je dois dire, je pense qu'il est très difficile de s'y reconnaître. Il y a vraiment entre toutes ces étiquettes. Je pense que si on veut être un consommateur responsable, il faut passer des heures dans les supermarchés à regarder très précisément les étiquettes et à voir effectivement les compositions. Je regardais, il y avait une émission il n'y a pas très longtemps où en fait il y a plein de biscuits qu'on donne à nos enfants, il y a de l'huile de palme, c'est très très mauvais pour la santé, mais en fait effectivement c'est bon marché, donc effectivement il faudrait vraiment être très attentif et lire de façon très précautionneuse ces étiquettes. Bon, encore une fois, je pense qu'il y a une mentalité à changer. C'est-à-dire, sans dire qu'on va uniquement manger des produits locaux de saison, je pense qu'effectivement, il y a des réflexes à avoir. Et entre deux produits, peut-être effectivement choisir les produits qui sont effectivement, qui privilégient cette logique de proximité. Maintenant, effectivement, sur cette idée de circuit court, circuit long, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bon. Je pense qu'il y a beaucoup de produits qui font. Aussi, on a parlé de produits alimentaires, mais tout ce que j'ai pas cité non plus, toutes ces démarches qui sont entreprises, par exemple en termes de cosmétiques. Il y a de beaux exemples, hein, je trouve, de succès, hein, de produits. Je pense que beaucoup d'entre nous, il y a quelques années, ne connaissaient pas l'huile d'argan, ne connaissaient pas non plus le beurre de karité. Bon, moi, le beurre de karité, je suis une vieille africaniste. Ben, effectivement, toutes mes amies utilisaient le beurre de karité comme pour des pommades, etc., etc. Actuellement, on va dans des boutiques, pour ne pas citer Body Shop, et ben, on va trouver effectivement des produits qui vantent toutes les vertus du beurre de karité. Alors, c'est intéressant le beurre de karité parce que c'est vraiment un produit qui vient de l'Afrique, notamment beaucoup au Burkina Faso ou d'autres, mais il y a eu des associations de femmes. C'est un produit qui est complètement, et les arbres, la cueillette, la transformation, est complètement entre les mains des femmes et c'est elles qui ont ce savoir-faire. Donc, c'est bien qu'il y ait effectivement une meilleure valorisation du beurre de karité, mais bon, des travaux ont montré qu'il y a aussi là un risque parce qu'à partir du moment où c'était un circuit court de proximité, ben, les femmes maîtrisaient toute la filière. Et que là, le risque, à partir du moment où il y a des circuits longs, il y a de nouveaux intermédiaires qui rentrent dans ce circuit, très souvent effectivement des hommes, et qui captent en fait beaucoup de revenus de ces filières qui étaient avant traditionnelles. C'est pour ça. Bon, je ne vais pas donner une image trop négative, mais à chaque fois, il faut effectivement, et on est là pour ça, je veux dire, en tant que chercheur, nous, on est là, c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais pour analyser effectivement à la fois les points de tension, les opportunités, mais aussi de mettre l'accent sur le fait, attention, c'est pas la solution, il y a des risques, il faut que vous soyez conscient de ces risques et d'essayer de prévenir ces risques.
Tu as beaucoup parlé de la prise en compte des savoirs locaux. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un miroir aux alouettes ? C'est-à-dire que, est-ce que dans un diagnostic pour la création, par exemple, d'une aire, c'est pris en compte dans le diagnostic scientifique ? Et après, dans la gestion de cette aire protégée, est-ce que c'est vraiment pris en compte ?
Ah, bonne question. Je dirais que bon, la plupart des aires protégées ont été créées. C'est une décision, c'est un décret, hein, très souvent des États, et ça a été pris en compte, comme je vous l'ai essayé de le montrer, d'abord complètement à l'encontre des populations locales. Il y a vraiment eu des exactions, des villages qui ont été déplacés, hein, et que des chasseurs maintenant sont devenus des braconniers, que des femmes qui ramassent des coquillages ou du bois, ils sont dans des conditions illégales. Donc, je veux dire, les conditions de création des premières aires protégées, mais encore actuellement, se font très très souvent à l'encontre des populations locales. Alors non seulement les populations locales qui habitent dans ces espaces, mais aussi à l'encontre de populations qu'on oublie très souvent, qui sont les populations nomades, notamment les éleveurs pasteurs nomades, puisqu'en fait ils ne sont pas résidents dans ces espaces, mais ils utilisent ces espaces, ce sont des parcours essentiels pour leurs troupeaux, et très souvent dans ces politiques, ils sont complètement oubliés. C'est la même chose avec les pêcheurs migrants, donc on leur interdit de pêcher à tel endroit, mais bon, ils vont aller où ? C'est aussi un peu une politique not in my backyard, vous savez, donc vous n'allez pas pêcher là, donc vous allez pêcher ailleurs, mais c'est ne faire que reculer le problème un peu plus loin. Donc, pour répondre à ta question, très souvent, ces savoirs ont été complètement ignorés pendant des années. Hein. Et cette redécouverte de ces savoirs, savoirs locaux, c'est assez récent. Hein. Ça date. Alors, effectivement, c'est dans les discours. On dit qu'il faut les prendre en compte. On les prend très rarement en compte pour la mise en place des aires protégées. Actuellement, je vois, donc il y a toute une politique, par exemple, dans la région du littoral ouest africain, ont été créées par décret un certain nombre d'aires marines protégées. Elles ne sont pas encore en place, ces aires protégées. Elles ont été effectivement créées par décret. On a essayé de mettre en place des comités de gestion, donc dans certaines régions. Ça suppose un énorme travail de concertation. On essaie de réunir tous les acteurs pour essayer de gérer ces aires protégées. Il y en a, je ne sais pas quand est-ce qu'elles verront le jour, parce que très souvent, effectivement, on prend la décision de créer, Puis après, on essaye d'impliquer les populations locales. On est encore loin, effectivement, de prendre en compte leur savoir et leur pratique locale, hein, dans la mise en place des aires protégées. Hein. Alors, c'est différent. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres catégories qu'on appelle aussi réserves communautaires. Je pense qu'aussi, très souvent, c'est un peu de la poudre aux yeux, comme tu dis, et que très souvent, on a fait de la concertation, de la négociation, on a soi-disant expliqué, alors notamment souvent aux anciens, aux chefs de village, hein, faut voir aussi, tous les gens ne sont pas forcément représentés dans ces arènes, et puis on n'a pas toujours bien les gens n'ont pas toujours bien compris ce qui allait se passer, hein. Ils pensaient aussi que ça serait que temporaire, que la fermeture, l'interdiction d'aller pêcher ou de chasser, c'était pendant quelques années, ça serait interdit, mais après qu'on pourrait à nouveau pouvoir exploiter. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension et très souvent, les réserves dites communautaires, je pense qu'elles sont le lieu d'affrontements actuels et futurs assez importants, hein, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une complète instrumentalisation de ces communautés locales qui sont effectivement censées être... souvent d'ailleurs les co-gestionnaires de ces réserves. Et ce que je disais, c'est vraiment souvent, très très souvent dans les discours et dans les réalités, ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toujours en plus des rapports de force. Et puis je voudrais aussi insister sur le fait, quand on dit il faut prendre en compte les populations locales ne sont pas homogènes. Je veux dire, au niveau même des acteurs locaux, il y a des intérêts divergents, que la nature des pêcheurs n'est pas celle des chasseurs, n'est pas celle des paludiers, on n'est pas très loin de la Camargue. Je veux dire, dans un même espace, on a des acteurs locaux qui ont aussi des intérêts divergents. Donc, je veux dire, les débats et les affrontements et les conflits entre intérêts ne sont pas uniquement entre niveau local, niveau national et niveau international, mais au niveau local aussi, il y a des conflits et des rapports de force très importants.
Bonsoir. Je voudrais dire un truc, c'est que malheureusement, pour toutes les personnes qui s'intéressent à tous ces phénomènes-là depuis des années, notamment au bio, on se rend compte d'une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a bien bousillé la planète. Certains se rendent compte qu'on a fait beaucoup de tort à la planète et que donc il faut faire des prises de conscience quand il y en a bien d'autres qui criaient au secours et qui demandaient à ce qu'on y fasse attention bien avant. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu des déforestations massives, les gens qui vivaient dans les poumons de la terre, l'Amazonie, sont retrouvés acculés, ils ne peuvent même plus vivre dans leur environnement naturel, etc. Je pense à eux comme d'autres populations. Et au jour d'aujourd'hui, on tombe dans le paradoxe que sous prétexte de faire, par exemple, du biocarburant, etc., on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec des gens qui oublient complètement de se nourrir. Ils sont en train de crever de faim parce que pour faire du biocarburant qui va nous servir à nous, occidentaux, parce que c'est même pas eux qui en profitent, je veux dire, ils se retrouvent à planter des tournesols, etc., pour du biocarburant, et ils n'ont plus rien, quoi. Et ils contribuent à dégrader encore un peu plus des endroits qui devaient être protégés. Donc comment faire aujourd'hui pour que ça ne se produise pas ? Parce que finalement, c'est un cycle sans fin. D'un côté, on détruit, d'un côté, on veut ne plus détruire. Mais on oblige les populations locales à cultiver des produits qu'ils ne vont même pas utiliser au détriment de leur propre devenir à eux, quoi. Donc que faire ? Parce que c'est vraiment un paradoxe total.
Alors, merci. Vaste débat, hein, sur ces biocarburants. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais de ce que j'ai lu et de quand on voit, parce qu'effectivement, bon, c'est très, très préoccupant. Puisque vous avez raison, c'est beaucoup d'États, notamment des pays du Sud, sont en train de vendre leurs terres, de l'arracher aux populations locales. Là aussi, il y a exaction. Donc, vous avez raison, parce que c'est la même logique que la mise en place des aires protégées. Et alors, quand on essaie d'estimer, notamment en termes, donc c'est une énergie alternative, quand on voit ce que cela procure en termes de kilowatts, je crois que c'est absolument mineur. Hein. Donc, alors c'est sûr qu'il faut diversifier les sources d'énergie. Bon. Mais les travaux qui ont été conduits, donc d'une part, du point de vue effectivement de ce que ça peut donner comme énergie, donc c'est mineur, et par contre, les effets, effectivement, la même chose, les implications au niveau local sont dramatiques, où des espaces entiers sont consacrés à la monoculture intensives, du jatropha, de canne à sucre, etc. Et autant d'espaces qui ne sont plus accessibles aux populations locales et à leurs activités. Et ça, effectivement, on le voit sur tous les terrains dans lesquels on travaille. Et je pense que ça ne va que s'amplifier. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre, il y a même des gouvernements qui ont sauté à cause de ça, parce qu'il y a eu des ventes, des cessions de terres à des étrangers, bon, à des grandes puissances hein, qui n'ont pas l'espace, les terres nécessaires dans leur région, et qui investissent notamment dans les pays les plus pauvres. Et donc, c'est complètement, ça accentue, vous avez tout à fait raison, ça accentue encore les déséquilibres. Et donc, effectivement, il faut essayer. Donc, on est particulièrement, je pense, sensible, travaillant en Afrique, quand même, on a tous à l'esprit cette crise alimentaire, les émeutes de la faim. Et donc, on a effectivement, il y a une exigence, effectivement, de développement durable. Il faut que les gens mangent d'abord. Mais, donc, il y a des travaux qui essaient de faire de l'intensivement écologique. Donc, la région dans laquelle j'ai longtemps travaillé en Casamance, effectivement, était une région de, vous voyez ces paysages de riziculture qui avaient des rendements très, très importants en riz, au moyen d'un système très sophistiqué de maîtrise hein, de l'espace par les communautés paysannes, qui était en fait de l'intensivement écologique. Alors, je ne vais pas dire que small is beautiful et que tout ce que font les communautés locales et les populations locales, c'est magnifique, mais on a un certain nombre d'exemples en Afrique où on voit qu'il y a des terroirs qui étaient maîtrisés, contrôlés, qui permettaient de se reproduire et de supporter, donc ces terroirs supportaient les plus fortes densités de population. Donc, ça veut dire que ça permettait de nourrir beaucoup de populations tout en se reproduisant et permettant effectivement une transmission de ces paysages d'une génération à l'autre. Alors, effectivement, il y a plein de facteurs qui ont contribué à complètement perturber ces systèmes et qui font que on est à une époque où il y a beaucoup de problèmes et qu'effectivement, on est face à ces exigences de produire toujours plus. Mais en essayant quand même de ne pas utiliser de pesticides, d'engrais, et d'utiliser des solutions effectivement que les paysans eux-mêmes connaissent et maîtrisent. Hein. Mais enfin, merci pour ça, c'est un vaste débat. Oui. Ouais.
Donc vous voyez bien que même là, quand on a quelque chose encore, on va dire comme autrefois, où les gens sont dans les villages, il suffit d'aller au Mali, Burkina, c'est la même chose, j'imagine, hein, dans cette zone-là, d'Afrique de l'Ouest, le marché fait qu'à un moment donné, tout s'effondre, quoi, hein, un peu comme les actions en bourse, il y a quelque temps, dans un autre domaine. Donc voilà, quelles prises peuvent avoir Et donc, ça veut dire famine, quoi. Ça veut dire que les gens, ils ont pu manger, parce qu'ils ont abandonné leur culture vivrière, certains, pour partir comme ça, pour essayer de... Alors, ça rejoint ce que disait la dame sur, évidemment, la fausse bonne idée, évidemment, du nouveau pétrole écologique, quoi. C'est-à-dire, des milliers d'hectares, on va fabriquer du maïs, on va pomper le maïs qui pompe beaucoup d'eau. Enfin, on connaît tout ça maintenant, puisqu'il y a une émission à la télé là-dessus, et des gens savants qui nous disent des choses, quoi. Alors ça devient compliqué là, parce que en tant que citoyen, quelle prise quoi, en dehors de faire attention en son précaré quoi.
Alors vous parlez, c'est vrai, très justement du coton. Actuellement, ce qui explose dans beaucoup de pays, on aura le même phénomène, c'est les plantations d'anacardier pour faire de la noix de cajou, qui est l'anacardier pour faire des noix de cajou. Vous savez, les noix de cajou, qui est un marché très important, notamment en Inde, parce que c'est beaucoup plus utilisé dans la cuisine. Donc c'est un marché qui était très porteur. Malheureusement, très souvent, les pommes cajou qui ont une noix à l'intérieur sont très souvent pas transformées sur place. Et donc, c'est vrai que la plus-value échappe très souvent aux communautés locales. Ce que vous dites, ça m'inspire. Je vais revenir notamment à cette notion de biodiversité. Alors, c'est vrai que la crise alimentaire a fait qu'alors qu'on les avait longtemps négligées, a fait qu'on a remis en avant les cultures vivrières et les systèmes de culture paysans qui, et ça c'est très important à avoir à l'esprit, qui ne reposaient pas sur une seule culture ou sur une seule variété végétale, mais qui reposaient en fait sur une combinaison de systèmes de culture. Je reviens encore à mon exemple de riz. Si vous saviez à quel point il est biodivers, ne serait-ce que il repose surtout effectivement sur la culture du riz, mais aussi sur d'autres activités. Je vous ai montré tout ce qu'on peut tirer des mangroves. Il repose sur l'exploitation du miel, du sel, des coquillages, de la poisson. Donc, c'est un système d'usage multiple, extrêmement diversifié, qui se combine en fonction des saisons. Mais si on s'en tient uniquement à la riziculture, il y a à la fois les rizicultures dans les zones de mangrove, les rizicultures de plateau, donc ce n'est pas les mêmes conditions agro-pédologiques. Et grosso modo, je dirais que ce sont les femmes qui gèrent le stock de semences. Et chaque femme, traditionnellement, j'aime pas beaucoup ce terme, mais en tout cas chaque femme, gère, contrôle une vingtaine de variétés de riz. Vous imaginez la diversité génétique, 20 variétés de riz qui sont effectivement repiquées, ensemencées en fonction des conditions d'inondation, de la saison, de la prévision des pluies. On a une remarquable diversité génétique, remarquable diversité au niveau des cultivars, au niveau des variétés, au niveau des espèces qui sont exploitées, remarquable diversité au niveau des paysages. Et donc, il faut vraiment... Et donc, l'erreur qu'on a commise, qui était l'erreur aussi de ces agents gestionnaires, qui était une vision très utilitariste, très productiviste, ben c'est nos plaines de la Beauce, monoculture, c'était effectivement de détruire ces systèmes d'usage multiples. Et il faut effectivement en revenir à ces recombinaisons, à cette diversification. Et la biodiversité, c'est ça. C'est de prendre en compte, d'avoir à l'esprit que pour faire effectivement une planète équilibrée, il faut un peu de tout, rien en excès. Et en fait, ça revient à des premiers travaux d'Hippocrate, un grec ancien, qui montrait déjà effectivement, comme je vous disais, chaque être humain, on est une biodiversité à soi tout seul, et que la bonne santé, c'est ça, c'est cet équilibre. Un bon régime alimentaire, c'est un régime équilibré. Et la mauvaise santé, ben c'est quand on prend en excès quelque chose. Et donc, encore une fois, la diversification des systèmes de culture, la diversification des systèmes d'activité permet aussi à ces systèmes, finalement, de se reproduire, d'être beaucoup moins vulnérables au changement de l'environnement, de s'adapter au changement de l'environnement. Alors, pour être moins pessimiste, je dirais qu'il faut croire, en fait, à la capacité aussi de ces communautés à la fois à valoriser leurs traditions, à saisir des innovations, et que effectivement, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que c'est la remarquable capacité d'adaptation et d'entreprise de ces communautés qui permettent quand même effectivement de mettre en valeur un certain nombre de leurs potentialités et de se reproduire. Bon, il faut être un peu de mise, mais c'est vrai que je crois que dans biodiversité, le terme diversité est extrêmement important. Non, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et de vos questions très, très stimulantes. Merci beaucoup.